On va parler avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui est présente dans ce studio de la justice française et de votre projet de réforme de la justice, Madame la Ministre. Mais peut-être une réaction à ce que vient de dire Camille sur la situation au Maroc.
Alors, plusieurs niveaux de réaction. Nous sommes évidemment, parce que nous avons une forme d'antériorité dans la défense des droits et libertés. Nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe dans l'ensemble des pays avec lesquels nous entretenons des relations. Pour autant, on n'interfère pas dans la manière dont ces pays rendent la justice intérieure. Mais vous savez, à chaque fois que le président de la République rencontre ses homologues, soit publiquement, soit discrètement, lorsqu'il y a des choses à dire sur les droits de l'homme, il le fait. Et nous y sommes toujours attentifs, y compris d'ailleurs dans les visites officielles que nous pouvons faire. Je me suis rendue en Chine avec le Premier ministre il y a quelques semaines, je crois. J'avais eu l'occasion également de travailler sur ce sujet-là.
Et alors, dans ces conditions, quelle est la réaction des officiels chinois? Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire sur les droits de l'homme en Chine.
Non, mais je vous le disais, il y a plusieurs niveaux d'intervention qui ne sont pas toujours officiels. Nous pouvons faire...
Comme on est entre nous, je voulais savoir si vous pouviez faire un petit commentaire à ce sujet avant qu'on parle de la réforme de la justice en France.
Non, vous voyez, par exemple, en Chine, il y avait eu des affaires assez délicates sur ce que l'on a appelé une affaire dite des farines, sur lesquelles il nous semblait que des ressortissants français avaient fait l'objet d'un traitement qui était difficile. Nous avons pu dialoguer et faire évoluer la situation positivement. Par ailleurs, vous le savez, il y a, puisqu'on parle de la Chine, il y a bien sûr des avocats qui combattent pour les droits de l'homme. Nous sommes attentifs, évidemment, à l'ensemble de ces questions.
Je vous ai invité, Nicole Belloubet, parce que le texte que vous avez porté, le texte qui porte donc sur la réforme de la justice, il doit venir en discussion à l'Assemblée à partir de lundi prochain. Une intersyndicale de magistrats, d'avocats et de personnel administratif appelle ce jeudi à une mobilisation dans tout le pays. On va voir quelle forme prend cette mobilisation. Bref, on a l'impression qu'en ce moment, la justice, c'est un mot, quel mot? Ah oui, un mot prononcé hier par le Premier ministre, un mot étrange.
Nous respectons évidemment l'expression du droit de manifester, l'expression du droit d'être en désaccord. Mais on respecte tout le droit. Il y a un droit à manifester, mais il est organisé. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai le souci également de la sécurité des Français. Si certains axes venaient à être bloqués alors qu'on en a besoin, pour faire passer les pompiers, pour faire passer les ambulances, vous doutez bien que ça mettrait en péril la sécurité des Français. Je suis respectueux de la liberté de manifester, mais la liberté de manifester en France, elle passe par des déclarations, elle passe par la prise de responsabilité de chacun. Celui qui se dit bah tiens, je vais bloquer ici et ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout, il sait que ce faisant, il prend un risque s'il ne respecte pas la loi.
Les sanctions sont appliquées. Les sanctions.
Bololo, voilà, c'est le terme désormais. Qu'est-ce que ça signifie, Nicole Belloubet? Parce que vous le connaissez bien, Édouard Philippe.
Je crois que le Premier ministre a simplement rappelé l'équilibre dans lequel fonctionne notre démocratie. C'est-à-dire à la fois l'entière liberté de manifester, mais évidemment, à côté de cela, l'entière liberté de circuler. Et c'est dans cet équilibre que le Premier ministre s'est inscrit. Autrement dit, bien sûr, les Français, lorsqu'ils ont un mécontentement, une colère, ont ce droit de manifester. C'est un droit vraiment tout à fait important, essentiel. Mais c'est un droit qui est également encadré parce qu'il ne faut pas paralyser la liberté de circuler et notamment, dans certains cas, la liberté d'accès aux soins ou les autres libertés.
Dans le domaine qui vous concerne directement, celui du droit, la colère de certains magistrats, de certains avocats, elle porte donc sur votre réforme de la justice, dont il n'est pas inutile, Nicole Belloubet, que vous nous rappeliez les principaux points.
Alors, en quelques mots, parce que c'est une loi qui est une loi fondée sur des constatations pragmatiques et donc pour améliorer le fonctionnement de la justice. C'est une loi que j'ai construite pour les justiciables parce qu'il me semblait, il nous a semblé que notre justice faisait l'objet de quatre critiques. Une justice qui n'est pas assez financée, qui n'a pas assez de moyens, une justice qui n'est pas assez rapide, une justice qui n'est pas assez proche et une justice qui, dans certains cas, a perdu de la crédibilité. Et ce sont sur ces quatre paramètres que nous avons voulu agir. Et donc, cela donne une loi qui, évidemment, intervient sur beaucoup de thèmes, procédure civile, procédure pénale, les peines, les peines, et puis l'organisation judiciaire. Et si vous me laissez deux minutes, évidemment...
Vous les avez, vous êtes sur France Culture, donc on a le temps.
Par rapport à la question d'une justice qui manque de moyens, nous avons augmenté le budget de la justice, 25% de plus en 5 ans, un budget qui dépassera 9 milliards d'euros, 6500 emplois créés. Donc nous améliorons évidemment de manière tout à fait considérable le financement de la justice. Une justice qui n'est pas assez rapide, c'est souvent un grief qui est formulé, eh bien nous avons mis en place des améliorations importantes dans le domaine de la procédure civile, par exemple là où le divorce contentieux prenait 2 ans, nous allons réduire ce délai à 1 an. Nous allons également mettre en place une numérisation des procédures qui permettra aux agents, aux greffiers, mais aussi aux magistrats de pouvoir faciliter leur travail. Une justice proche, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Donc nous maintenons l'ensemble des tribunaux, mais nous faisons évoluer certains points d'organisation. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler.
On va revenir effectivement sur ces différents points.
Un dernier point sur la crédibilité. Vous savez, beaucoup de nos concitoyens s'étonnent, par exemple, de ce que lorsqu'une personne est condamnée à 2 ans de prison, elle ne fasse jamais l'objet d'une mise en détention. Nous allons porter remède à tout cela en disant qu'une peine prononcée doit être une peine effectuée. Donc, au fond, ce sont ces 4 paramètres que nous avons cherché à faire évoluer.
Si je voulais résumer d'un mot cette colère, la colère des magistrats, des avocats, ce serait la déjudiciarisation.
Alors, quand vous dites colère des magistrats, je voudrais quand même dire que c'est la colère peut-être de certains d'entre eux. Car vous savez, moi je me déplace énormément dans les juridictions ou dans les établissements pénitentiaires. Il y a bien sûr des récriminations, des griefs, des attentes. Mais beaucoup de magistrats ou de personnels de la justice considèrent que les réformes que nous proposons apportent des améliorations.
Et d'autres sont résignés et se disent que de toute façon, cette réforme va passer, Nicole Belloubet, la déjudiciarisation. C'est-à-dire le fait de dire, voilà, la justice française n'a pas assez de moyens, vous l'augmentez, mais de toute façon, on part de tellement loin que cette justice est quand même très paupérisée. Votre réponse, c'est de soustraire à la justice un certain nombre de choses qui, jadis, étaient réglées par elle.
Alors, il y a des éléments en ce sens, mais attention, mon objectif n'est pas de déjudiciariser. Mon objectif est de recentrer les magistrats ou les enquêteurs, pour la partie qui leur revient, sur leur cœur de métier. Autrement dit, d'enlever des tâches sur lesquelles ils n'apportent pas de plus-value. Je prends un exemple, comme il y en a d'autres. Lorsque nous disons que... quand un couple souhaite faire une déclaration anticipée pour une procréation médicalement assistée, on ne voit pas en quoi le juge intervient de manière à apporter une plus-value. Il s'agit d'enregistrer le consentement d'un couple. Et donc, comme les conséquences en termes de filiation sont les plus essentielles, il nous semble plus pertinent que ce soit devant un auxiliaire de justice que cette déclaration puisse être faite. Donc vous voyez, je ne déjudiciarise pas pour déjudiciariser, je concentre le juge là où il apporte une plus-value. De la même manière, faire du contentieux n'est pas une fin en soi. Faire du contentieux, c'est vraiment lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions. Si nous pouvons passer par d'autres modes alternatifs de règlement des litiges que le contentieux, c'est-à-dire par la conciliation, par la médiation, eh bien pourquoi ne pas le faire ? Lorsque vous avez un litige mineur avec votre voisin, peut-être est-ce qu'un médiateur ou un conciliateur vous apportera la solution ? Est-il vraiment besoin d'aller devant le juge ? Donc ce n'est pas de la déjudiciarisation. Pour la déjudiciarisation, c'est recentrer le juge sur la plus-value qu'il peut apporter.
Je prends un autre exemple, Nicole Belloubet. La pension alimentaire, par exemple, son calcul ne va plus être fait par un juge, mais par le directeur de la CAF.
Non, c'est pas vrai.
CAF. Pardonnez-moi, je réagis vivement. J'ai l'article sous les yeux, c'est un article de La Voix du Nord, et celui-ci indique celui-ci indique que 15 tribunaux sur les 17 des Hauts-de-France vont être en grève aujourd'hui.
Alors, il faut rétablir les choses telles qu'elles sont écrites. Il est évident que la fixation de la pension alimentaire sera faite par le juge. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que nous avons proposé, et c'est une expérimentation. Ce que nous avons proposé, c'est que quand il y a une révision de la pension alimentaire, parce que l'un des deux ex-époux a vu sa situation modifiée, nous proposons que ce soit fait par la Caisse d'allocation familiale, qui, je le rappelle, est un organisme certes privé, mais chargé d'une mission de service public, et qui a déjà des compétences dans ce domaine. Et nous disons que la CAF pourra, sur la base d'un barème, à la fois plus rapidement et plus équitablement, plus harmonieusement sur l'ensemble du territoire, fixer cette révision. Nous prévoyons un recours devant le juge si l'un des deux ex-époux n'est pas satisfait de la décision de la CAF. Et ce recours pourra être suspensif. Donc nous avons mis en place une expérimentation, des voies de recours et une procédure qui, de notre point de vue, sera plus rapide et plus harmonieuse. Pourquoi contester cela ?
Alors on peut le contester, par exemple Nicole Belloubet, en se disant que vous avez hérité, parce que ça n'est pas vous qui êtes responsable de la paupérisation de la justice, mais aujourd'hui la justice française est très pauvre, je cite un chiffre pour les auditeurs, 66 euros par habitant et par an, alors que par exemple en Allemagne c'est 122 euros, ce qui signifie que votre augmentation de 25%, augmentation certes importante en pourcentage, elle ne va absolument pas permettre de rattraper ce retard. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train d'automatiser, parce que la numérisation aussi, ça va dans ce sens, Nicole Belloubet, est-ce que finalement, vous n'essayez pas de combler un retard avec des moyens qui demeurent très largement insuffisants ?
Alors, non. Et je voudrais répondre d'une double manière à ce que vous évoquez là. D'abord, vous faites référence à l'étude qui est établie régulièrement par au niveau européen, qui étudie la justice dans les différents pays.
Absolument.
Et les chiffres que vous donnez, évidemment, viennent de cette étude et il ne m'appartient pas du tout de les contester. D'ailleurs, ils ne sont pas contestables. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Notre système judiciaire, d'une part, comporte beaucoup de juges qui ne sont pas des juges professionnels. Regardez dans les tribunaux de commerce, dans les conseils de prud'hommes, tout cela n'est pas pris en compte dans l'étude européenne, parce que dans d'autres pays, ce sont des juges professionnels, pas chez nous. Donc il faut, je dirais, rajouter en quelque sorte ces juges non professionnels qui viennent accroître l'effort de justice dans notre pays. D'une part, par exemple, et je pourrais également ajouter, parce que cela fait aussi partie de l'effort de justice, tous les délégués des procureurs de la République qui viennent contribuer également à cet effort de justice et qui ne sont pas pris en compte dans ces études. Mon propos n'est pas ici de critiquer l'étude, c'est de dire attention, on ne peut pas comparer vraiment mot à mot chacun de la situation de chacun des pays.
Alors,
d'autre part, vous faites, et je voudrais juste répondre sur ce second point, vous faites état de la numérisation. La numérisation, c'est vraiment... est-ce que dans votre station de radio, vous n'êtes pas numérisé ? Est-ce que vous ne travaillez
Évidemment,
pas avec...
Évidemment, nous le
sommes. Eh bien sûr, vous l'êtes. Notre justice a beaucoup de retard du point de vue de la numérisation. Et nous voulons, par la numérisation, permettre un accès facilité au justiciable à sa procédure. Nous voulons faciliter les échanges entre les avocats et les magistrats. Nous voulons donner la possibilité aux greffiers, qui actuellement croulent sous le papier, d'avoir moins de manipulations de papier. Donc ce sont des... Prenez un exemple concret. Vous avez quelqu'un qui vient porter plainte au commissariat.
C'est ce que quelqu'un de l'équipe des matins a fait hier. Alors il l'a fait, donc il a tout fait numériser, puisque d'ailleurs il est là, vous le voyez en régie. il a déposé sa plainte hier numérisée et lorsqu'il est arrivé au commissariat, eh bien le policier lui a demandé de tout réécrire parce que ça ne fonctionnait pas du tout.
Voilà, eh bien, c'est un exemple de ce que nous voulons changer. Et nous voulons...
Mais vous ne l'avez pas déjà changé ? Je veux dire, la numérisation, elle est faite. Pourquoi ça
Mais
ne
non,
marche
elle n'est pas,
pas
faite. La numérisation n'est pas faite.
Il a fait son dépôt de plainte.
Laissez-moi
vous
expliquer.
Je vais vous laisser répondre, bien entendu. Oui. Mais il a fait son dépôt de plainte sur Internet, déjà.
Alors, laissez-moi vous expliquer. Ce que nous voulons, c'est que la plainte puisse être numérisée dès lors qu'elle est déposée. Alors, soit que la personne puisse déposer plainte directement sur Internet, c'est ce que rendra possible mon projet de loi. Et cela permettra vraiment de faciliter ce dépôt de plainte pour les justiciables. Peut-être y reviendrai-je. Mais bien sûr, tous les justiciables, toutes les personnes qui veulent déposer plainte continueront à devoir être accueillis dans les commissariats ou les gendarmeries. Mais ce que nous voulons, c'est que lorsque une personne vient porter plainte, ça plainte soit numérisée dès le départ et que le dossier soit numérisé jusque sur le bureau du magistrat. C'est très compliqué, parce que les logiciels de la police, de la gendarmerie, de la justice ne sont pas les mêmes. Donc nous avons dû mettre en place avec le ministère de l'Intérieur un cahier des charges, une équipe projet qui est pilotée par un haut magistrat et par un préfet, et tout cela aboutira à partir de 2020 à la possibilité vraiment d'avoir une procédure native pénale numérisée. Ce sera un progrès considérable.
Alors évidemment c'est un progrès qui va coûter très cher, vous y affectez 500 millions sur 5 ans.
Absolument.
Du coup, il y a l'idée selon laquelle l'augmentation de budget, elle pourrait d'abord aller au système informatique et moins aux hommes, Nicole Belloubet.
Mais non, pas du tout. Nous avons garanti, quand je vous dis qu'il y a 25% d'augmentation de budget, il y a des emplois qui sont créés. Tout cela est garanti parce que la loi que je porte est une loi de programmation et de réforme. Et donc l'intérêt d'une loi de programmation, c'est évidemment sur 5 ans de montrer quelle sera chaque année l'augmentation budgétaire et le nombre de créations d'emplois. Donc l'un n'enlève pas à l'autre. Il va de soi que les postes financiers sont garantis.
Comment faire taire dans ce cas-là ces inquiétudes? Parce que cette numérisation, elle est perçue comme étant un risque pour l'emploi dans le domaine de la justice. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de délibéré, puisque si on numérise, c'est pour éviter un certain nombre de papiers, de paperasses qui doivent être manipulés. Qu'en pensez-vous, Madame la Garde des Sceaux?
Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de risque pour l'emploi, puisque je viens de vous le dire, nous allons créer 6500 emplois supplémentaires dans les 5 ans. Donc, il n'y a pas de risque pour l'emploi. Qu'imaginez-vous? Ce que nous voulons, c'est que la justice fonctionne mieux. Nous savons que nous avons besoin d'emplois supplémentaires. Nous avons besoin d'emplois de magistrats. Nous avons besoin d'emplois de ce que l'on appelle les équipes autour du magistrat. Parce que lorsque vous allez dans certaines juridictions, qu'est-ce que vous disent les magistrats? Ils vous disent pas nécessairement « on a besoin de magistrats supplémentaires ». Ils vous disent « on a besoin de personnes autour de nous qualifiées pour nous aider à préparer les décisions ». Ce sont les équipes autour du magistrat. Nous mettons des emplois là-dessus. Nous créons des emplois de greffiers supplémentaires, nous créons des emplois de surveillants pénitentiaires, nous créons 1500 emplois de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Bref, ce sont des créations d'emplois dont nous avons besoin.
Je vais poser dans ce cas-là ma question différemment. Où allez-vous faire des économies?
Mais nous n'en faisons pas puisque le budget est
pas
en augmentation. Mais nous faisons des... nous ne faisons pas d'économie, nous transformons la justice. Et la numérisation, c'est un des éléments qui contribue à la transformation de la justice avec la réforme des procédures nous mettons en place.
Dans ce cas-là, cette grève qui a lieu aujourd'hui, je vous citais par exemple dans les Hauts-de-France, 15 tribunaux en grève sur 17,
mais
c'est une grève complètement irrationnelle.
Non, je dirais pas complètement irrationnelle, il y a des craintes, il me revient d'expliquer les choses. D'ailleurs, nous nous sommes déplacés avec les directeurs d'administration centrale. Nous avons fait ce qu'on appelle une loi de programmation et de réforme de la justice, un tour de France de la loi de programmation et de réforme de la justice, pour expliquer, pour montrer que derrière les craintes, il y a des évolutions qui sont indispensables à la réussite de notre système judiciaire.
Nicole Belloubet, vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera les réformes en cours. On évoquera aussi la situation politique que traverse la France. Frédéric Seize reviendra sur l'interview du chef de l'État qui a eu lieu hier et vous nous donnerez votre sentiment sur cette situation politique, Madame la Ministre. Il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Vous êtes ministre de la Justice et garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Par exemple, parmi les annonces qui ont été faites hier, alors même que le verbe le plus employé, comme l'a très bien démontré Frédéric Seize, était le verbe entendre, l'idée selon laquelle il faut demander aux Français de changer leur chaudière au fioul pour ceux qui en ont une. Est-ce que ça n'est pas tout simplement une manière de mettre de l'essence sur le feu? C'est-à-dire, on voit bien que les gens ont des soucis de pouvoir d'achat. Ceux qui ont installé des chaudières au fioul, ce sont les ménages les plus modestes.
Oui, c'est exact. Je crois simplement que ce que veut dire le président de la République et les aides qui seront apportées, qui seront mises en place, c'est des aides qui sont construites dans le temps et dans la progression. On ne dit pas à chacun, demain matin, changez votre chaudière au fioul. On sait que pour sauver notre planète, je le répète, il faut aller vers de l'énergie décarbonée. Donc il faut aider les gens à aller en ce sens-là.
Sans sauf à rendre ces aides intégrales, ce qui n'est pas le cas quand vous proposez à
quelqu'un.
Non, mais
il y a des aides importantes tout de même. Encore une fois, je suis lucide. Je sais la difficulté que beaucoup de nos concitoyens ont à faire face aux fins de mois. Je sais tout cela. Et encore une fois, nous ne sommes pas dans l'injonction en disant « il faut changer les chaudières ». Nous disons lorsque...
C'est une forme d'injonction, Madame la Ministre.
Non, non, non. Mais non, nous sommes dans l'accompagnement. On n'est pas dans l'injonction, on est dans l'accompagnement. Absolument tout le temps. On est dans l'accompagnement avec les indemnités kilométriques qui vont être valorisées, avec l'aide au covoiturage, avec l'aide à la prime, avec la prime de conversion.
Mais etc. On je vais est vous dire encore plus brutalement. Et ça pouvait pas attendre 2 ans les chaudières au fioul.
Mais la planète n'attend pas. Et les chaudières au fioul, on n'est pas dans l'injonction. On attend. On annonce un accompagnement. Mais la planète n'attend pas. Nous sommes dans une situation vraiment dramatique. Et je crois que l'ensemble des mesures qui sont prises... Je comprends que dans le quotidien, on ne pense pas toujours à la survie de notre planète. Ça, je l'entends parfaitement. Mais chacun d'entre nous... Oui, mais alors, il faut aussi tout dire. Car le gouvernement a tout de même pris un certain nombre de mesures qui viennent accompagner le pouvoir d'achat. Alors, ces mesures, plus personne n'en parle parce que actuellement on est focalisé sur, je dirais, les difficultés liées au coût du pétrole, mais ces mesures, elles existent. La suppression des cotisations sociales, c'est extrêmement important. L'aide à la taxe d'habitation, tout cela sont des mesures, et je ne parle pas de la revalorisation d'un certain nombre d'allocations adultes handicapés, etc. Donc ces mesures, elles existent, et elles vont concerner les plus modestes d'entre nous. Donc il faut tout dire pour avoir la réalité d'une situation.
Frédéric Saïs. Les membres de l'exécutif, depuis une semaine, rappellent les peines encourues par ceux qui voudraient bloquer de manière totale certains accès. En tant que ministre de la Justice, que leur dites-vous à ces gens qui veulent bloquer vraiment, on le voit dans les reportage. Attention, ne descendez pas dans la rue.
Mais non, vous caricaturez. Nous n'avons
c'est une
jamais...
question.
Non, nous n'avons jamais dit cela. Nous disons, comme toujours, il y a un droit à manifester, bien entendu, et cela fait partie même des droits fondamentaux de notre République et de notre démocratie. Ce droit à manifester ne va pas jusqu'à abolir totalement la liberté de circulation, et c'est simplement cet équilibre-là que nous rappelons. Et nous rappelons, bien sûr, que cet équilibre doit être respecté.
Que dites-vous à ceux qui bloqueraient totalement certains accès, certaines rocades ?
Nous leur disons qu'il y aura évidemment des interventions pour laisser passer soit les forces de les personnes
les forces
qui,
de sécurité,
de
ou, de
sécurité ou de secours.
Mais des poursuites également ?
Écoutez, je ne vais pas anticiper une situation, nous verrons ce qui va se passer.
Alors justement, lorsque l'on évoque ce bras de fer, ce face-à-face, et que l'on entend hier le président de la République évoquer les instrumentalisations de part et d'autre, on voit qu'il y a une sorte de front anti-Macron qui est en train de se constituer. Est-ce que le fait de répéter, comme il l'a fait hier, si je l'ai bien entendu, qu'il y avait aujourd'hui une alternative entre, disons, des populistes et lui, La République En Marche, est-ce que ça n'est pas un jeu dangereux, Nicole Belloubet ?
Moi, je considère simplement que, mais c'est ma façon d'être et de concevoir la vie politique, je considère qu'il faut être responsable. Et que dans cette responsabilité, il y a à la fois l'énoncé des colères, des craintes, parfois des fantasmes, et que de l'autre côté, il y a l'énoncé d'une réalité. Ce que je supporte, et donc moi ce que je dis ici, c'est que le gouvernement, La République En Marche, mais d'autres encore, prennent en charge et le long terme, avec ce que l'on a évoqué sur les questions climatiques et énergétiques, et le quotidien, avec les mesures d'accompagnement dont nous avons parlé. C'est cela la responsabilité dans la vie politique, c'est cela qu'il faut expliquer. Je trouve curieux.
Juste une chose là-dessus, la remarque de François Ruffin, elle est assez claire. Elle dit, d'accord, il faut financer tout cela. Pourquoi, par exemple, avoir transformé l'ISF en IFI ?
Mais la remarque de François Ruffin, c'est une remarque qui est politique et l'attitude...
Oh, on ne peut pas
bien sûr,
reprocher
non, mais je lui reproche pas. Je ne lui reproche pas. C'est une remarque qui est politiquement orientée, voulais-je dire. Lorsque le gouvernement a pris les mesures qu'il a prises concernant l'ISF transformé en IFI, c'est bien parce que derrière, il y avait une volonté qui est construite et qui doit être redite. Cette volonté, c'est de favoriser l'emploi. Pour favoriser l'emploi, l'idée, c'était de permettre l'investissement pour que les entreprises aient les moyens précisément, de se développer et de créer des emplois. C'est notre première obsession, redonner de l'emploi, parce que seul l'emploi donne du pouvoir d'achat. Et donc tout cela fait partie d'un ensemble. Donc nous sommes vraiment dans ce que le président de la République a qualifié du triptyque libérer, protéger, unir. Et nous sommes vraiment dans cette triple valence-là.
Frédéric, alors, je voudrais revenir sur le rôle de ministre de la Justice, mais avant, juste comme on est sur François Ruffin et sur les Insoumis, on ne va pas revenir sur le fond des perquisitions autour de la France Insoumise. Il y a un mois, vous êtes déjà exprimé là-dessus et l'affaire est en cours. En revanche, à l'époque, il y a une phrase très en colère qu'a prononcée Jean-Luc Mélenchon à votre attention et on n'a pas très bien compris.
Madame Belloubet, garde des Sceaux, vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire. Parce que vous m'avez connu comme votre ministre. Vous m'avez connu autrefois, il y a longtemps, comme votre ami. Ce que vous êtes en train de faire est une honte.
À quoi fait-il allusion ?
Il fait allusion à deux choses. D'une part, j'ai été rectrice d'académie alors qu'il était ministre de la formation professionnelle.
Dans les années 2000 ?
Dans les années... Jospin. Oui, c'est ça, absolument. Et donc, effectivement, j'ai travaillé beaucoup avec lui dans ce cadre-là, et c'est tout à fait naturel. Et il fait allusion, par ailleurs, au fait que nous avons des amis communs. Et je n'ai pas pour habitude de renier mes amitiés.
Voilà qui est dit.
Donc c'est un ami, Jean-Luc Mélenchon.
Je n'ai pas pour habitude de renier mes amitiés. Vous savez, les relations amicales, et chacun d'entre nous en est témoin, connaissent des phases cycliques, et c'est tout à fait naturel.
Bon, alors ça, effectivement, on le comprend bien, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que dans cet extrait diffusé, ce qu'il vise, c'est une manœuvre politique.
Alors ça, c'est le fond de l'affaire. Il n'y a aucune manœuvre politique. Il y a simplement l'application de procédures judiciaires dans laquelle, mais je ne veux pas ici me répéter, la garde des Sceaux n'intervient jamais.
Alors, je vais malheureusement peut-être vous inciter à vous répéter. Il y a quelques mois, on s'était vu, Nicole Belloubet, et je vous avais dit, voilà, c'est étonnant, la procédure menée contre François Fillon, il y avait urgence pendant la campagne présidentielle, et aujourd'hui, d'après ce que je lis, au mieux, la chose pourrait être jugée en 2020. Ce qui veut dire quand même que là, semble-t-il, l'urgence est moindre. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas considérer que ce qui a été mené contre François Fillon n'est pas seulement une procédure normale de justice, mais aussi un procès politique ?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Vous savez, je crois que dans toute affaire judiciaire, il y a des temps qui doivent être respectés, qui sont parfois longs. Je peux entendre, bien sûr, que cela paraisse long pour les intéressés. C'est un temps qui est nécessaire à l'enquête, à l'instruction.
Mais expliquez-nous pourquoi, je ne demande évidemment pas de juger le jugement, mais de nous expliquer pourquoi il y avait urgence. Si cet homme, par exemple, souhaitait, je crois que ce n'est pas le cas, mais si, par exemple, il souhaitait revenir en politique, on peut imaginer que ce retour serait quand même singulièrement freiné par cela. Est-ce qu'il n'y a pas là une injustice ?
Alors ça, il ne m'appartient pas de prendre position sur justice ou injustice.
Mais favorable à Fillon ou pas.
Non, mais ce n'est pas la question. Mais là, nous sommes dans une affaire qui est en cours tout de même. Donc je ne veux pas prendre une position
mais
quelconque.
Est-ce normal qu'un justiciable...
Je dis juste que entre le moment où une plainte est déposée, où il y a une enquête qui est conduite, où il y a ensuite une procédure d'instruction qui est menée, tout cela est long parce que tout cela est conduit à charge et à décharge. Et donc cela ne peut pas se faire en quelques jours. Tout cela est nécessairement long.
Frédéric Seitz. Le rôle de ministre de la Justice est un grand classique et toujours accusé d'être trop laxiste, on l'a vu sous Christiane Taubira de manière paroxystique. Comment vous l'analysez ? Est-ce que c'est parce que la chancellerie a en quelque sorte le mauvais rôle de rappeler les règles, le droit, les fondements de la justice, face notamment au ministre de l'Intérieur qui lui veut incarner l'autorité qui est régulièrement demandée dans les sondages ? Est-ce que c'est pour ça fondamentalement ?
Alors, on n'est jamais bon juge de son action. Je n'ai pas l'impression d'être trop laxiste. Je cherche, là encore, à établir un équilibre en permanence, y compris dans la loi que je porte, un équilibre entre l'efficacité des procédures. Nous avons, et cela nous est reproché, vous le savez, nous avons mis en place un certain nombre de procédures qui permettent de recentrer les enquêteurs sur leur cœur de métier, donc d'accélérer les procédures d'enquête, parce qu'au bout, il y a un justiciable qui attend. C'est ce dont nous parlions. Donc, à la fois, efficacité des procédures, mais en même temps, toujours, garantie des droits. C'est cet équilibre-là que je cherche à atteindre.
Quand vous entendez Valérie Pécresse à droite, par exemple, qui propose que les peines soient doublées dans les quartiers les plus criminogènes, comment vous réagissez ?
Mais je réagis en disant à Madame Pécresse que nous avons des principes dans notre Constitution qui s'appellent le principe d'égalité et que je sache, on ne peut pas apporter des peines différentes selon les territoires. Je sais bien que Montesquieu avait développé une théorie des climats, mais en l'occurrence, c'était une théorie philosophique. Concrètement, le principe d'égalité et le principe de l'égalité des peines fait que vous ne pouvez pas juger à un endroit et à un autre en apportant des réponses pénales de nature différente.
Donc c'est pure démagogie.
Elle le sait d'ailleurs parce que elle-même disait qu'il y avait peut-être une question d'égalité. Mais en revanche, nous avons des territoires que nous avons avec Gérard Collomb puis avec Christophe Castaner définis, des territoires sur lesquels il y a des trafics et sur lesquels nous voulons agir de manière extrêmement forte. Donc dans l'action, nous pouvons distinguer les territoires. Dans le résultat pénal, c'est difficile.
Pour poursuivre sur ce que vient de dire Frédéric Seyss, il y a dans le point aujourd'hui une couverture sur ce que les ministres de l'Intérieur n'osent pas dire avec un tableau, je dois dire, assez inquiétant de la France, notamment donc dans le domaine de l'islamisation. Est-ce que, par exemple, cela, c'est quelque chose qui est clairement perçu ? Est-ce qu'il y a effectivement une lutte ? Alors, d'après le point, celle-ci est insuffisante vis-à-vis donc d'un islam radicalisé qui tourne le dos à la République, Madame la Ministre.
Nous sommes absolument mobilisés sur cette lutte contre le terrorisme, dans toutes ses formes. Souvent, c'est du terrorisme islamiste, effectivement, radical. Nous sommes mobilisés là-dessus. Je travaille de manière étroite avec mon collègue de l'Intérieur. On est mobilisé à trois niveaux, si je peux prendre une seconde. Au niveau local, où nous avons vraiment mis en place une lutte contre la radicalisation par des processus à la fois de travail en très grande cohérence police-justice et avec d'autres acteurs également. Donc au niveau local, au niveau national, peut-être l'avez-vous lu dans la loi que je porte, je mets en place un parquet national pour la lutte contre le terrorisme qui viendra renforcer les moyens dont dispose l'actuel parquet de Paris. Je crois que c'est très important.
Pourquoi ? Parce que ces moyens étaient insuffisants ?
Non, ils n'étaient pas insuffisants, mais quand je dis renforcer les moyens, je veux dire avoir vraiment un réseau sur le territoire national. Donc un maillage national, il y aura un parquet centralisé à Paris, mais avec un maillage sur le territoire national. Donc renforcement à ce niveau-là de la lutte contre le terrorisme. Et au niveau européen, j'ai réuni il y a une dizaine de jours 6 ministres de la justice de l'Union européenne, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, la France bien sûr, le Luxembourg, les Pays-Bas, il doit manquer, et l'Allemagne. Et nous avons signé une déclaration commune sur cette question de la lutte contre le terrorisme, avec la création au niveau d'Eurojust d'un registre qui nous permettra de relier les différents acteurs du terrorisme que nous avons pu recenser pour renforcer le pouvoir d'enquête, avec d'autres éléments sur la prise en charge des victimes, etc. Et évidemment sur la poursuite sur Internet des contenus terroristes. Donc vous voyez, il y a des actions à tous les niveaux. Nous sommes d'une volonté farouche sur ce sujet.
Frédéric, on parle architecture de la justice. On connaît évidemment les assises pour les crimes. On connaît évidemment le tribunal correctionnel. Pour les délits, vous voulez expérimenter un tribunal criminel qui serait, je schématise un peu, entre les deux. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi c'est nécessaire ?
Oui, nous nous apercevons que là aussi, en partant du souci du justiciable ou des victimes, nous savons que les cours d'assises, parce que la procédure tout à fait exceptionnelle qui se déroule devant ces cours d'assises est une procédure orale avec des jurés, qui est une procédure très longue dans le temps.
On parle des meurtres, des viols.
Nous parlons, les cours d'assises jugent exclusivement les crimes. Nous proposons une expérimentation pour que les crimes punis de 20 ans de réclusion soient jugés en première instance, en quelque sorte, par une cour criminelle. Ce sont les députés qui ont rebaptisé le tribunal criminel départemental en cour criminelle, par une cour criminelle qui, mêlant un dossier écrit et l'oralité avec des juges professionnels, permettra d'aller plus rapidement au jugement qui est attendu par les victimes.
Vous avez peur des jurés populaires ?
Mais pas du tout.
Là, vous les enlèveriez dans ce tribunal.
Dans ce tribunal-là, en première instance, ce seraient des magistrats professionnels, 5 magistrats professionnels. Un appel serait toujours possible devant la cour d'assises. Nous espérons ainsi que les victimes, d'une part, ne verront pas les crimes qu'elles ont subis transformés en délits, ce qui est une déqualification, mais qu'au contraire, ils pourront être jugés en tant que crime et plus rapidement. Nous sommes pour la vérité judiciaire.
Toujours dans ce dossier assez alarmiste, publié par Le Point aujourd'hui, il est question de bandes de narcotrafiquants qui seraient un peu partout sur le territoire et notamment dans les villes moyennes. Est-ce que tout d'abord, c'est une situation qui est, selon vous, fidèle ? Alors, on évoque, par exemple, de plus en plus de trafic dans des villes comme Sète, Béziers, également à Carpentras. Est-ce que vous avez la sensation, Madame la Ministre, qu'il y a effectivement de plus en plus de narco-banditisme en France métropolitaine ?
Alors, je n'ai pas lu le dossier du Point encore, mais nous savons, bien entendu, que ces crimes et ces systèmes organisés, ces crimes organisés, nous savons que cela existe, nous savons que cela se développe. Et c'est la raison pour laquelle une action, je vous le disais tout à l'heure, très forte sur certains endroits est conduite avec une mise en cohérence de l'action police-justice, puissante, d'une part, et c'est la raison pour laquelle, au niveau judiciaire, nous avons des juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée, ce qui nous permet d'avoir une réponse que nous voulons absolument efficace.
Mais alors, tout à l'heure, on a évoqué l'article 37 avec une contravention qui serait...
Nous ne sommes pas dans le même...
Justement, je vais y venir. L'article 37 qui évoque une contravention pour les personnes qui consommeraient du cannabis. N'y a-t-il pas quelque chose d'incohérent dans le fait de poursuivre des consommateurs de cannabis, d'abord parce que ça va évidemment mobiliser des moyens de la force publique? Est-ce que ça n'est pas finalement un combat d'arrière-garde? Si, par exemple, vous décidiez de légaliser le cannabis, cela permettrait probablement à ces trafics de se dégonfler, puisque dans un certain nombre de pays, les États-Unis par exemple, c'est devenu un commerce légal, c'est le
cas
au Canada.
Oui, mais les expériences étrangères de ce point de vue-là ne sont pas toutes concluantes.
Pourquoi ?
Parce qu'on ne voit pas nécessairement une corrélation. On ne voit pas nécessairement une corrélation entre la baisse des trafics, qui va se reporter sur d'autres types de drogues, et la légalisation du cannabis.
Oui, mais c'est parce que
que ces expériences étrangères ne sont pas concluantes que le président Macron, dans sa campagne présidentielle, avait clairement dit qu'il maintiendrait la consommation de cannabis comme un délit. Et donc c'est dans le respect de ce programme que nous agissons aujourd'hui. Donc à la fois, il nous semble que les expériences étrangères ne sont pas toutes concluantes dans la lutte contre les grands narcotrafiquants. Et d'autre part, il nous semble également que la disposition que nous adoptons par cet article de la loi que je porte nous permet à la fois de maintenir une réponse, de maintenir la consommation de cannabis comme un délit, ce qui nous permet derrière, le cas échéant, de déclencher, si cela apparaît nécessaire aux policiers, des gardes à vue avec évidemment une action judiciaire. Cela nous permet également d'apporter une réponse en termes de santé publique, parce que cette forfaitisation des amendes n'interdira pas des politiques pénales qui mettront en exergue les stages, évidemment, ou les opérations de santé publique avec des stages de sensibilisation, etc. Donc, si vous voulez, on a une réponse à plusieurs niveaux.
Emmanuel Macron a fait de l'évaluation l'une des choses qu'il veut mettre en avant pour toutes les politiques publiques. Sur cette question précise, si la contravention aux consommateurs ne fonctionne pas, est-ce que vous pourriez revenir dessus dans quelques années ?
C'est pas une contravention, c'est un délit qui est forfaitisé. Hein. Il y a eu récemment une mission parlementaire qui a été porté par un député l'AREM et puis un député de l'opposition. Il n'est pas du tout exclu. Il n'est pas du tout exclu, car moi je suis très favorable à l'évaluation des politiques publiques, que cette politique puisse être évaluée.
Mais alors, qu'on comprenne bien, Nicole Belloubet, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Est-ce que finalement, on passe à une contravention parce qu'on va aller vers la dépénalisation ? Ou est-ce qu'on passe à une contravention parce qu'on veut rendre la sanction plus sévère ?
Je me répète, ce n'est pas une contravention.
Je suis désolé de vous faire vous répéter.
C'est un délit qui est forfaitisé pour qu'il puisse être sanctionné plus facilement. Cette sanction par la forfaitisation n'empêche nullement et la conduite de politique publique en matière de santé publique et, d'autre part, pour la grande criminalité qui n'a rien à voir avec la consommation, n'empêche nullement que soient développées des politiques publiques très sérieuses de lutte contre la criminalité organisée.
Une dernière question, Madame la Ministre. Donc aujourd'hui, il va y avoir une journée de mobilisation dans la justice. Là aussi, vous ferez une politique d'évaluation après cette journée pour voir dans quelle mesure votre réforme doit ou non être amendée par rapport à ce qui va se dérouler.
Vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec l'ensemble des professions du droit et le projet qui est déposé aujourd'hui est un peu différent du projet déposé initialement. D'autre part, le débat parlementaire aura toute sa place. Et soyez certains que moi-même, je suis très mobilisée aujourd'hui sur le succès de cette loi.
Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses.